I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro, c'est l'épisode 14 de la saison 6. Et toujours à mes côtés, Arnaud Beurdelet, journaliste milieu olympique. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafut, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby au menu. Aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour, ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir le président de l'Aviron Bayonnais, Philippe Taïeb. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon Poulain Rafut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est toujours à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Vous êtes prêts, je l'imagine. Poulain Rafut, saison 6, épisode 14, c'est parti. Allez Raph, aujourd'hui, tu tiens à rendre un hommage, un vibrant hommage au président de club, ces hommes qui construisent et qui donnent tout pour leur équipe, c'est bien ça ?
Oui Arnaud, écoute, je reste admiratif de moi de ces mecs qui ont réussi dans leur domaine et qui reprennent des clubs, parfois sous perfusion, souvent à perte, et qui envoient des millions d'euros, parfois aussi, ben là, de manière philanthropique. On va dire, je mets des nuances, car c'est aussi, on ne va pas se le cacher, une volonté de réussir dans un domaine où beaucoup y ont laissé des plumes. Et pas que des plumes. Ce sont souvent des hommes de challenge, parfois des hommes qui ne connaissent rien au rugby et qui découvrent un univers bien particulier. Et ils ne sont pas tous fortunés. Il y en a aussi qui sont ce que j'appellerais de l'économie réelle et qui vont chercher des euros chez des petites et moyennes entreprises aussi pour que l'usine puisse tourner et que tout le monde s'y retrouve. Alors j'aimerais en citer quelques-uns et leur rendre hommage à ces types, les Pierre Fabre, Serge Kampf, Jacky Lorenzetti, Mourad Boudjelal, Max Gozzini, mais aussi Moued Altrad, Bernard Lemaître, Thomas Savard, le docteur Wild, Olivier Ginon, Laurent Marty, Vincent Merlin, Bernard Pontenot, François Rivière, Philippe Taïeb, et derrière eux, tous ceux de Pro D2 et tous ceux aussi dans les clubs amateurs, bien sûr, tu le sais Arnaud, qui galèrent justement à boucler les budgets et pour exister à haut niveau. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais il faut quand même leur reconnaître une chose. Si le top 14 est fourni, aussi attractif, si les joueurs du monde entier ont envie de venir jouer en France, ce n'est pas que pour la gastronomie, le beau jeu, les valeurs et les stades pleins. J'ai souvent entendu lors de leur sortie médiatique ou lors d'un mercato que l'on peut qualifier d'étoilé, des petites salves de réflexion de personnes que je ne qualifierais pas de supporters, mais tu vois, ces petites piqûres du genre « ouais, bon, ils peuvent se le permettre avec ce qu'ils brassent comme oseille ». Alors, je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte de l'énergie, au-delà du pécunier, de ce que ça peut représenter en termes de stress de diriger un club de top 14. Parce qu'il n'y a pas que 30 ou 40 mecs à gérer sur un terrain et à payer. Il y a aussi les bureaux qui doublent parfois l'effectif de la boîte. Il y a les infrastructures à moderniser pour rendre attractif l'offre faite aux sponsors et aux supporters. Il y a des égos à gérer, des décisions délicates parfois à prendre tout en gardant ces belles et grandes valeurs sous peine d'être montrées du doigt. On les connaît peu, ces hommes, et il y a pourtant toujours eu pas mal de critiques autour de ces personnages. Pourtant, je ne suis pas certain que ceux qui, jaloux ou envieux ou tout simplement trop passionnés pour prendre un peu de hauteur, arriveraient à mettre un quart du tiers de la moitié de leur propre fortune pour payer les gonzes pour cavaler derrière une baballe. Alors, je caricature, hein, mais c'est trop facile, là encore, de montrer du doigt ces hommes qui foutent toute leur énergie dans la bataille, soit pour maintenir chaque année leur club et leur économie, soit pour atteindre le Saint Graal, tant convoité par les 13 autres clubs, tout en acceptant de voir une partie de leur argent partir en fumée, parfois, quand celui-ci n'atteint pas le saint bout de bois. Il y a pas mal d'emmerdes à gérer au quotidien, et l'un des seuls avantages d'être président, c'est que tu n'es pas emmerdé avec tes salariés qui veulent bosser en télétravail. Ben non, là, tu vas sur le terrain, tu mouilles le maillot, quoi. Donc, merci, messieurs, de faire vivre notre sport et les milliers de personnes qui en profitent, comme moi, chaque semaine, chaque week-end, chaque mois et chaque année. Et c'est aussi un peu grâce à vous que je suis là, moi aussi, à vous parler de ce sport que j'adore. Car sans vous, il n'y aurait pas de club pro, pas de beaux jeux, pas d'anecdotes à partager et pas d'histoires à raconter. Alors, à la vôtre, cher patron, et continuez d'arroser notre cher rugby de vos moyens, certes, mais surtout de votre passion.
Allez, deuxième partie de Poulain Rafut. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le président de l'Aviron Bayonnais, Philippe Taïeb, un président qui fait l'actualité depuis plusieurs semaines et que tu tenais absolument à recevoir, n'est-ce pas, Raph ?
Oui, Arnaud, ben, on suit, je suis l'aviron bayonnais quand même depuis 20 ans que, voilà, que je suis passé par le rugby pro. On le suit, ce club. Et aussi depuis son retour en top 14, et j'avoue être séduit par le projet qui se construit petit à petit, un projet qui s'appuie sur une ferveur populaire incroyable. Et je suis ravi d'avoir avec nous l'artisan principal de ce projet. Bonjour Philippe.
Bonjour. Merci de m'accueillir parmi cette belle émission que j'entends parler, où des fois j'ai la chance de pouvoir l'écouter. Bravo du travail qui est fait.
Bah écoute, merci beaucoup. D'abord, on va juste un petit mot, tu vois, le petit mot qui fâche, juste pour parler du week-end, et puis après, on parlera du fond, mais là, la forme. Voilà, lourde défaite. Alors, lourde, pas le jeu de mots, lourde, parce que tu viens de Lourdes, hein, mais lourde défaite à Montpellier, 35-14. Qu'est-ce qui s'est passé, président ?
Non, je crois que c'est un peu le problème des équipes qui se retrouvent à 14, arrivent à se resserrer beaucoup plus vite que celles qui se retrouvent à 15. Et peut-être qu'on a eu un excès de confiance et on a surjoué. Bon, je reste très, très optimiste par rapport à ce qu'on a fait. Mais c'est vrai que ce match-là ne reflète pas le sérieux du début de saison avec le respect du jeu. Bon, je trouve qu'on a été, on a fait des bonnes choses, mais on s'est précipité. Et c'est vrai que validation à la mi-temps de notre 8-6, ça me pose un petit souci parce que on peut basculer à la mi-temps devant et puis on se retrouve un contre 70 mètres alors que la sirène a retenti. Bon, je crois que ça va nous servir et puis ça va nous permettre de nous rappeler surtout que il faut qu'on joue au niveau où on doit être et peut-être en tenir compte dans le futur parce que le top 14, quand tu joues le champion de France, il faut rester sur tes basiques que tu as fait depuis le début de la saison. Je trouve qu'il y a des défaites qui sont constructives et celle-là, on va la mettre dans la construction de notre suite.
Messieurs, juste avant de poursuivre vos échanges, Raph, je te propose peut-être que tu nous dresses le portrait de Philippe, un président pas comme les autres. Taïeb, façon Poulain Rafut, c'est maintenant.
Oui, Philippe, tu es président de l'Aviron Bayonnais depuis 2018, mais ce que les gens ne savent moins, c'est que tu as été joueur de rugby dans les années 90 et que tu as remporté un titre de champion de France, groupe B, ce qui est à peu près notre Pro D2 aujourd'hui avec le FC Lourdes. Alors, donc, tu connais le rugby, tu connais le terrain sûr et surtout maintenant en dehors. Je disais dans l'introduction de cette émission que ce métier de président de club est un métier à part. Alors, il y a ceux qui sont mécènes, voire philanthropes, qui s'investissent, mais qui délèguent pas mal parce que voilà, ils ont d'autres activités autour. Et il y a ceux qui sont sur le terrain jour et nuit, qui sont dans les tribunes, dans les bureaux, dans les vestiaires, parfois, et qui mouillent le maillot, qui sont aussi dans les Algeco, mais les Algeco n'existent plus maintenant à Bayonne, et qui mouillent donc le maillot sans compter et qui n'ont pas cette fortune qui leur permettrait de relâcher un peu la bride, ne serait-ce qu'une seconde. Et c'est ton cas, et c'est la cinquième année que tu construis avec tes équipes le renouveau de l'aviron bayonnais. Alors, tout n'a pas été rose, mais il y a eu une montée en puissance de ce club mythique. Je dis mythique parce qu'au-delà du palmarès et de l'image du club, dans toutes les tribunes françaises, voire même internationales, on peut entendre à un moment donné l'hymne de la Peña Bayona. Et ça, c'est mythique parce que c'est même mythique que même à Beauvais, au BRC, on l'a chanté quand j'étais petit. Donc, te dire que c'est mythique. Plus sérieusement, Bayonne s'est modernisé. Bayonne ne joue plus le maintien. Bayonne, de par son recrutement ciblé, Maxime Machelot, Camille Lopez, on a parlé justement, Arthur Itoria qui arrivera l'an prochain. Mais Bayonne dévoile petit à petit son ambition de s'installer durablement, stratégiquement et intelligemment en top 14. Je dis intelligemment car on a souvent vu des équipes faire le yo-yo entre la Pro D2 et le top 14 sans jamais vraiment trouver les clés pour y rester. Philippe, vous avez su, avec tes équipes, tirer des leçons du passé et construire enfin un Bayonne fort qui gagne, qui ne prétend plus jouer petit bras. Tu prouves à travers les résultats aujourd'hui qu'il est possible d'installer une économie durable dans le temps, sans pour autant avoir recours à du mécénat. Il y a une vraie volonté de garder cet ADN basque, cette culture bleue et blanche, grâce à votre formation, mais aussi grâce à la confiance apportée à des joueurs qui se sont révélés au fil des matchs, au fil des années, depuis ton arrivée. Donc moi, j'aimerais comprendre la recette de Philippe Taïeb, justement, pour avoir réussi à faire de Bayonne une place forte du rugby pro. Et ma première question, Philippe, ce sera les infrastructures sont devenues capitales dans le sport professionnel, tant pour la performance sportive que pour l'activité économique. Bayonne a une nouvelle tribune, des espaces pour les hospitalités, un nouveau centre d'entraînement avec l'AB Campus. Est-ce que c'est ce qui manquait pour installer durablement l'aviron bayonnais dans le top 14?
Oui, c'est un nouveau stade parce qu'on a double tribune, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a été aidé par la crise. Je crois qu'on a construit au bon moment parce que on était dans une période où l'État, le gouvernement français a beaucoup aidé nos clubs et faut quand même les remercier parce que on aurait été dans une situation financière délicate étant donné que mais on a passé un an sans jouer, à jouer avec 10 000 personnes en Pro D2. On était quasiment à guichet fermé, mais si on avait vécu cette situation en étant top 14, ben on avait des salaires top 14. Donc c'est vrai qu'on a construit au bon moment, et l'objectif, c'était d'avoir une vraie économie, c'est ce que je dis, une économie réelle. Aujourd'hui, je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas ni millionnaire ni mécène au club. Et je travaille tous les jours, je passe 40-50 heures dans ce club, bénévolement, je le rappelle, hein, pour les personnes qui avaient des doutes.
C'est bien de le rappeler, c'est bien de le rappeler, Philippe.
Bénévolement, mais je crois que je suis un homme de challenge et quand je me suis retrouvé à la présidence de l'Aviron, ce n'était vraiment pas prévu dans ma vie. J'ai été propulsé là par hasard ou par défaut, je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, quand je me fixe un objectif, je dirais dommage pour les dommages collatéraux parce que j'avance et je regarde que les gens qui veulent avancer avec moi. Mais ce club, il a quelque chose de particulier. On a aujourd'hui une mairie, un maire qui est en permanence proche de mes équipes, proche de moi. Et on a construit, ce nouveau club ou ce nouveau Aviron Bayonnais avec des garçons de ma génération, des familles du Pays Basque, des gens qui sont impliqués depuis des années, mais qui sont très discrets. Le Basque est très discret, très à l'écoute, très observateur. Et je crois que c'est une communauté qui est belle et qui vous donne envie de vous transcender et surtout de vous dépasser, ce que j'essaie de faire au quotidien. Et comme je dis, la culture du travail, ça a toujours été la culture du Pays Basque. Et aujourd'hui, quand vous avez un président qui travaille, eh bien, tout le monde doit travailler. Parce que s'il y a un atterrissage financier catastrophique, eh bien, c'est tout le monde qui payera l'addition parce qu'il n'y aura pas quelqu'un pour combler les trous de manque. Donc, je suis fier d'être président d'un conseil d'administration composé qui avait des jeunes, de 50 ans, hein, de ma génération, mais qui sont quand même des familles du territoire local, de Bayonne, du Pays Basque. Et c'est là où les gens s'y retrouvent. Quand tu parles de la signature de Camille Lopez, de Arthur qui vient nous rejoindre, de Maxime, il y a Facundo, tous ces gens-là veulent vivre de l'authenticité et ils savent que tout le monde travaille dans ce club. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, on peut être fier de nos nouvelles installations, mais c'était impossible de faire autrement parce que cette économie elle s'est construite jour par jour. Et là où je peux être fier, où on peut être fier, c'est qu'il n'y a pas une zone de risque dans notre budget, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un partenaire qui a plus de 2% de notre économie. Et je trouve que demain, même si on perd notre gros partenaire, on ne pourra pas avoir un atterrissage ou des situations financières catastrophiques.
Donc vous avez franchi vraiment ce palier qui permet justement de ne plus être le promu qui débarque et qui va jouer le maintien, on l'a vu, hein, je pense que vous êtes à 6 victoires et 5 défaites. Qu'est-ce qui manque pour aller plus loin? Alors, est-ce que déjà, il faut déjà digérer le fait de ne pas avoir à jouer les bas de tableau, de prendre aussi plaisir aussi au quotidien, de vivre l'instant présent, parce que c'est chouette de voir Bayonne aussi qui s'installe, certes en 8e position, mais à 2 points du Stade français. C'est quoi la prochaine étape?
Non, il faut rester, je veux dire, humble et rester prudent. Aujourd'hui, là, déjà, c'est le maintien. Et chaque année, je crois que si on gagne une année, chaque année, on pourra un jour vivre plus. Parce que moi, je suis un président ambitieux et on est ambitieux, pas prétentieux. Mais l'objectif, c'est de voir Bayonne un jour, je veux dire, dans le top 6 pour faire des phases finales et une Coupe d'Europe. Après, on sait le budget qu'il faudra pour arriver là. On n'en est pas loin, mais tous les ans, on travaille justement pour arriver à construire cette masse salariale qui va être à notre avantage. Le salarié cap descendant à 10 millions. L'Aviron a un projet, un envol à 9,5 millions, c'est-à-dire que dans 4 ans, jouer avec l'Aviron à 9,5 millions vaudra du 10 millions peut-être dans toute la France, parce qu'on est quand même une région attractive, on a des joueurs qui viennent pour vivre cette émotion avec ce public, ses supporters, ses socios. Et c'est vrai que si chaque année, on arrive à gagner une place dans le classement, mathématiquement, on sera rapidement dans le top 6.
Justement, Philippe, aujourd'hui, le budget de l'Aviron, grosso modo, si j'ai bien suivi, c'est autour de 21 millions d'euros, peut-être un tout petit peu plus. Est-ce que, justement, la structuration, le fait de pouvoir aujourd'hui accueillir des hospitalités, de pouvoir proposer une offre plus large, de permettre à tout ce peuple bayonnais de vivre plus longtemps dans le stade, de consommer plus, on ne va pas se mentir, hein, on parle d'une relation clientèle aussi. Est-ce que ça va permettre, à un moment ou à un autre, justement, au niveau du budget, de pouvoir progresser et rejoindre certains clubs aujourd'hui dont les standards, on est plus à 26, 27, 28 millions d'euros?
Je crois que l'Aviron, si on veut garder le modèle, on ne sera jamais à 26, 27. Par contre, on sera à 24, 25. C'est une certitude. Nos hospitalités nous permettent d'avoir une vraie économie avec, 2000 hospitalités à terme. Et c'est quasiment 8 millions dans notre budget. Mais on n'est pas capable de construire 26, 27. Par contre, on est capable de construire 23, 24, 24 peut-être et demi en gardant pour cette équation qui est, attention, pas plus de 2% ou 3% de ton budget sur un partenaire. Parce que vivre avec un mécène qui en devient le propriétaire, c'est pas du tout la philosophie, c'est pas du tout ce que veut notre conseil d'administration. On veut rester majoritaire. Aujourd'hui, le conseil d'administration, c'est 60% du capital du club. Donc, c'est eux les propriétaires et j'en suis le président, mais on n'ira pas non, mais par contre, avoir un déséquilibre dans une économie qui demain va devoir à un moment être réel, parce que j'entends des sommes qui vous font tourner la tête, hein, quand vous perdez 5, 6 millions, 7, 8 millions, 10 millions, 10 millions par an, mais il n'y a que des propriétaires fortunés qui peuvent se le permettre, mais je ne crois pas ce rugby riche. Voilà, je crois à un vrai rugby. On est une région, on est une terre, on a des joueurs qui arrivent de vraiment du terroir, et la preuve en est le retour d'Arthur. Bayonne n'était pas le club le plus offrant, mais je crois que jouer sous cette pression permanente, hein, quand tu es joueur de l'Aviron, c'est 24 heures sur 24 que tu es sous la pression, chez ton boulanger, chez ton boucher, chez ton docteur. Tout le monde te parle de ce club et tout le monde veut savoir ce qui se passe. Et il y a un avantage dans les grandes villes d'être dans l'anonymat, mais quand vous êtes comme nous, c'est aussi un bonheur d'être reconnu partout, et je crois que les joueurs apprécient ça aussi.
Oui, tu as parlé d'Arthur Ituria, mais on parle vraiment de l'ADN basque. J'en ai parlé dans ton portrait, justement. D'ailleurs, vous avez annoncé dans la presse, hein, que l'objectif était de convaincre de nombreux joueurs de revenir au Bercail, des joueurs comme Anthony Etriard, Aymeric Luc, Max Pring, Baptiste Souzlou. Si je te dis ça, c'est que vous avez cette volonté à l'Aviron Bayonnais de faire avancer ces dossiers-là. Je ne me trompe pas. On l'a remarqué avec le Stade Toulousain aussi, on le remarque dans beaucoup de clubs, en fait, d'essayer de cette espèce de retour aux sources aussi, d'essayer de travailler aussi avec les anciens, ou en tout cas ceux qui font partie de la région. À Toulouse, ça a marché, justement. On a beaucoup d'entraîneurs qui sont issus du club. Et là, c'est vrai que de recréer cet ADN, certes, autour du terrain, mais aussi à l'intérieur, avec votre formation aussi. Enfin, il y a une vraie volonté, en fait, de faire du basque une terre forte de rugby avec les joueurs issus de la région.
Mais tu sais, ce que je disais aujourd'hui, quand tu portes ce maillot et que tu rentres à Jean Nauger, que tes parents, tes grands-parents, tes cousins, puis je ne dis pas qu'il y a une grande consanguinité au Pays Basque, mais vous avez de la famille, le Basque a de la famille partout, des cousins, des amis, et l'ami du cousin et le frère. Et c'est quand même important. Je crois qu'ils arrivent à se dépasser, à aller chercher, je leur dis tout le temps, 10 ou 15% de plus, d'activité quand ils sont issus de ce territoire. Mais notre formation est reconnue. On est troisième centre de formation depuis quasiment chaque année, troisième, quatrième, cinquième. Et surtout, on a à peu près 14 joueurs qui font le bonheur des grands clubs. Et pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas les garder, un, par nos infrastructures, deux, par notre budget. Donc, c'est juste logique que ces joueurs, eux, ils pensent à leur carrière. Et chaque fois qu'ils partent, ils ont un pincement au cœur, mais chaque fois qu'ils reviennent, tu sais, quand tu vois les fêtes de fin d'année, les week-ends, quand ils sont libres, eh bien, ils reviennent où ? Ils reviennent au Pays Basque, ils ne restent pas dans les grandes villes ou chez eux. Et c'est le Bilbao Foot, aujourd'hui, en est l'exemple. C'est 70% de joueurs issus du Pays Basque, espagnol, français, intérieur, la côte. Mais nous, si on arrive à faire revenir ne serait-ce que 50% de nos pépites qui sont parties, je crois qu'on pourra avoir quand même une équipe intéressante et avec des valeurs qui nous ressemblent. Ouais,
est-ce que justement, le fait d'avoir doté le club vraiment d'infrastructures dignes de ce nom, en tout cas dignes d'un club de top 14, Raph ironisait tout à l'heure avec les Algéco, mais c'est vrai que ça a été longtemps l'image véhiculée par l'Aviron Bayonnais, avec tout le charme évidemment que ça lui confère. Mais est-ce que c'est plus facile finalement pour convaincre des joueurs de venir jouer à l'Aviron quand aujourd'hui on peut lui offrir des infrastructures dignes de ce nom?
Oui, parce que chaque fois qu'on est en contact avec un joueur, on a un process qui a été établi avec la cellule recrutement. Il y a une visio qui est envoyée pour les étrangers pour qu'ils arrivent à se situer où est le Pays Basque, en France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir avec en plus 4000 mètres carrés, c'est une anecdote. La semaine dernière, on a fait la photo de l'équipe sous cette halle de 1000 mètres carrés. Mais il y a un an, on l'aurait faite dehors avec la pluie, donc ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, quand vous avez des joueurs qui ne pleut pas beaucoup en plus au Pays Basque, mais quand vous avez des joueurs qui se retrouvent le matin avec 4 mètres carrés de salle d'entraînement, déjà, l'efficacité, ben, elle est quand même nettement supérieure. C'est comme quand on va dans un bureau, si le bureau est neuf, joli, avec des beaux sièges, on est plus à l'aise qu'avec un truc un peu vieillotte, parce que il n'y a pas que Raph qui a parlé d'Algeco, il y en a certains qui se sont permis de parler aussi de nos Algeco, mais bon, on a eu quand même deux titres champions de France en 4 ans dans les Algeco, donc il ne faut pas cracher tout le temps dans la soupe, parce que...
Mais Raph est bien placé pour en parler d'ailleurs, Raph qui a connu à l'époque du Stade français l'esprit bohémien, où il n'y avait même pas de terrain d'entraînement.
Je ne parlais pas pour Raph, mais certains se sont permis de dire que c'était une mascarade à l'Aviron Bayonnais, ils se reconnaîtront, donc...
Nous, on a eu la chance, comme tu le disais, Arnaud, de connaître le terrain où tu allais t'entraîner dans la forêt de Meudon. Tu t'entraînais dans une salle qui s'appelait le Kosovo, parce que tu t'entraînais sous une tribune dégueulasse à côté du Parc des Princes. Et pas à Jean-Bouin, tu t'entraînais à Jean-Bouin avec les gamins qui faisaient de l'athlétisme en même temps. D'ailleurs, j'ai pour une anecdote, Diego qui tapait entre les poteaux, qui s'entraînait, son gamin qui était sur la piste avec son vélo et les mecs de l'athlétisme qui faisaient ça. Et il y a un mec qui a porté son gamin de l'autre côté de la barrière, et là Diego est arrivé les deux pieds en avant et a fumé ce pauvre mec de l'athlétisme pour te dire tu devais trouver des horaires pour pouvoir t'entraîner. Bon, je passe là, voilà, c'est une petite parenthèse pour Diego, une petite dédicace, mais oui, on a connu, fut un temps, mais comme tu le dis, Philippe, tu es obligé de te moderniser, tu es obligé de pouvoir aussi te proposer des infrastructures qui permettent aussi au recrutement, et on l'a compris, Bayonne, ce n'est pas l'Eldorado au niveau pécunier, mais en termes de confort, tu vas pouvoir travailler maintenant dans les meilleures conditions pour être plus performant et à terme intégrer les 6 de manière durable. Voilà, parenthèse terminée.
Il y tient.
Non, mais c'est important. Aujourd'hui, on a un environnement qui est exceptionnel. Moi, je suis pas basque. Taïeb, vous imaginez, en plus de Lourdes, ça fait...
mais tu as des origines, c'est marocaine, c'est ça?
J'ai 3 ou 4 origines. Donc avec une mère catho qui m'a fait faire le catéchisme et qui m'a fait aller en fan de cœur.
C'est le rugby.
Au milieu, confirmation solennelle avec un père double origine, c'est un peu particulier, mais pour que un Taïeb soit président de l'Aviron, ça prouve que c'est une terre d'accueil. Et je crois que le Basque ne reconnaît que le travail. Et moi, j'ai été élevé dans la culture du travail. Voilà, mon père se levait à 4h30, on avait un bar à Lourdes et on fermait à 1h. Et quand tu as connu ces valeurs du travail, tu essaies tous les jours d'impulser ce travail. Et tout le monde a adhéré, parce que ça n'a pas été évident. Il a fallu faire adhérer, parce que tu ne peux rien faire tout seul. Et j'ai des équipes aujourd'hui autour de moi qui sont exceptionnelles et administratives. On a 38 maintenant salariés. On est une entreprise de 103-104 salariés. Et moi, ce que j'ai dit en arrivant, nous sommes une entreprise de spectacle et nous devons donner du plaisir aux gens. À partir de là, on doit se construire comme une entreprise et pas être une association dans le monde professionnel. Donc, on n'était pas capable de retenir et de travailler pour garder ces jeunes et on n'avait pas les infrastructures qui nous permettaient ou même le budget de prétendre autre chose que de faire maintien, descente. Bon, voilà. Donc, tout ça, je crois que c'est derrière, mais en restant très, très prudent. Il faut rester prudent. Rien n'est acquis. On a encore des matchs difficiles. Hein. La saison va être dure. Il faut rester humble dans nos propos et humble dans notre jeu, parce que l'humilité fait partie du rugby. Parce que quand tu arrives, tu veux tout révolutionner, puis tu t'aperçois que c'est pas comme ça que ça se passe. Surtout quand tu es un peu clivant au départ, et bien tu te dis bon, ou tu vas droit dans le mur, ou tu dis non, je vais avoir besoin de tout le monde pour réussir. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait. Bien entendu qu'on a dû se séparer de certaines personnes, mais aujourd'hui, il y a de belles personnes dans ce club. Et moi, ma grande fierté, c'est ce conseil d'administration qui aujourd'hui, voilà, il n'y a pas une personne au-dessus de l'autre. J'ai toute liberté de mes choix. Je dirige le club comme je le fais à mon entreprise, avec mon entreprise. Mais je crois que la confiance maintenant s'est établie, que ce soit avec les pouvoirs publics, avec la mairie, avec, je crois, les joueurs, le staff et mes administrateurs. parce que tout le monde œuvre dans le même sens. C'est très important.
Alors justement, moi, Philippe, j'ai une petite question. Comment on fait pour être chef d'entreprise à titre privé et en même temps président d'un club, vous l'avez dit, avec plus d'une centaine de salariés? Est-ce que les journées font plus de 24 heures à Bayonne? Comment ça se passe?
Et en plus, comme tu disais, Philippe, en étant bénévole, c'est quand même assez hallucinant, quoi. C'est wow.
Mais déjà, je me lève à 5h, 5h30, parce que j'aime ça. Je trouve que, je le dis, j'ai eu un père qui m'a... Il n'est plus là, donc je suis un peu ému des fois. Mais il m'a beaucoup éduqué au travail. Voilà, moi, je suis quelqu'un... je préserve ma vie perso, parce que ma vie perso est importante. Et j'ai un grand garçon de 22 ans, une petite de 3 ans, une femme un peu plus jeune. Je le dis souvent, si tu veux rester jeune, mets-toi avec une jeune. Mais bon, je veux dire, aujourd'hui... voilà, je commence mes journées à 5h30, 6h et je finis souvent à 18h, 19h, 20h, ça dépend, mais toujours avec l'idée de préserver ma vie, parce que c'est un équilibre, la vie perso, la vie de famille, et j'ai une famille extraordinaire avec une mère et une sœur. On est très, très espagnol, latin, parce que ma mère est espagnole, et j'ai eu la chance de jouer pour l'équipe d'Espagne pendant 5 ans. Donc, je veux dire... C'est toutes ces valeurs qui aujourd'hui, quand vous expliquez de là où vous partez et là où vous voulez aller, c'est un management, c'est quels moyens on va mettre pour arriver à nos objectifs. Et moi, j'essaie de manager mes équipes au niveau de l'aviron, hein, commerce, marketing, événementiel, parce que l'économie qu'on construit, c'est quand même 250 dates autres que nos matchs, avec autour des locations dans nos espaces, des événements supplémentaires. On avait envisagé de faire un festival, on a fait marche arrière parce que le risque était trop élevé. On va essayer de faire une délocalisation pour amener le rugby, j'espère, à Saint-Sébastien, qui est vraiment le cœur du Pays basque général, espagnol, français, intérieur.
Ce serait pour quel match, ça, Philippe?
Section paloise.
D'accord, voilà. Oui, et ça, pour fédérer vraiment... toute une région encore.
Voilà, une belle fête autour de le Béarn, le Pays basque, rivalité, mais... On a aussi la proximité, mais je crois qu'on on a la chance d'être des gens qui pourront apporter de la joie et du bonheur à cette population, à cette communauté, à cette région. Il faut qu'on en profite, mais après, il n'y a que le travail qui compte. Le reste, on n'est pas tout le temps bien payé, mais aujourd'hui, on va dire que voilà, mes journées, c'est 12, 14, 15 heures. Mais vous savez, quand vous y allez avec de la joie, les 15 heures deviennent 4 heures. Hein.
Mais d'où l'expression, on n'est pas bien payé, mais on rigole. Tu l'as déjà entendu, celle-là, quoi. Tant que ça vous sourit, c'est très, très bien. Philippe, tu parlais de management, justement, sur le terrain. Vous avez fait aussi le pari d'avoir une personne, justement, un jeune manager, sans véritable expérience dans ce rôle-là, attention, parce que quand même, il a quand même pas mal vadrouillé. Aujourd'hui, ça semble être un pari réussi. Qu'est-ce qui, toi, t'a convaincu, vous a convaincu à l'Aviron Bayonnais de prendre Grégory Pata?
Ben, quand il y a eu dans l'annonce de Yannick qui ne continuerait pas avec l'Aviron en octobre 2021, je crois qu'on a eu des candidatures parce qu'on est un club attractif et puis les gens commençaient à parler de nos projets, savaient qu'on allait grandir et c'est vrai qu'on a eu quand même des candidats intéressants, mais on a été et on a pris le choix de Grégory parce que c'est un garçon qui a une humilité exceptionnelle et qui aujourd'hui veut grandir, veut apprendre et on a retrouvé un garçon de la terre, un peu taiseux, qui correspond vraiment à ce qui est ses valeurs du basque et qui pouvait nous amener tantôt de l'expérience, je veux dire, rugbystique, parce qu'il a vraiment un œil, je veux dire, confirmé, je dirais, sur ce côté-là, et surtout avoir l'humilité de vouloir apprendre. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les managers... Ben, eux l'ont, d'autres l'ont pas, mais Greg est toujours à l'écoute, est toujours bienveillant et je crois qu'il est proche des joueurs et c'est vrai que le recrutement, à part les 4-5 premiers recrues, bon, c'est moi qui les ai faites, qui ai fait ce recrutement parce que je dirais c'est des recrutements pas très compliqués quand tu vas chercher Maxime Machenot, Camille Lopez, après les 3 autres c'était différent, hein, il y avait Akier, Pourailly et le petit Huguet. Mais c'était une période d'opportunité, il fallait le prendre. Après, c'est Greg qui gère tout le recrutement, tout le sportif. Moi, je suis un président et je reste dans ce rôle de le président préside, l'entraîneur entraîne et les joueurs jouent. Et ça évite d'avoir surtout des positions qui ne nous appartiennent pas. Je ne m'initie jamais dans le rugby, je ne veux pas la composition, elle est là, le recrutement. Chacun doit prendre ses responsabilités. Le manager fait son staff, Moi, je suis juste le dernier maillon de la chaîne qui est la négociation financière. Mais je ne veux surtout pas m'initier dans le sportif parce que c'est de l'ingérence et je trouve ça ne pas donner l'entière responsabilité et l'entière confiance d'un président ou d'une direction envers son staff et son manager.
Philippe, on va bientôt conclure. C'était évidemment très riche. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à l'Aviron Bayonnais ? On a l'impression que ce club est lancé quand même sur de bons rails. On voit qu'au niveau des infrastructures, ça évolue. On voit que les résultats progressent. On voit que des joueurs ont envie de revenir. C'est quoi la prochaine étape, finalement ?
De nous maintenir sur cette saison 22-23. Et puis, je crois qu'on a fait ce qu'il fallait pour nos joueurs. On a aujourd'hui validé 90% de nos renouvellements. On a mis une colonne vertébrale forte pendant 2-3 ans. On a les mêmes joueurs pendant 2-3 ans. Et chaque année, c'est d'aller chercher maintenant peut-être que 4 ou 5 joueurs de haut niveau, d'expérience, j'espère issus de la formation ou du territoire du Pays Basque.
Allez, des noms.
Non, mais pour arriver comme à notre projet, c'est-à-dire jouer un jour le top 6 avec nos joueurs et nos valeurs. Et si on arrive cette année à se maintenir, on continuera à travailler dans ce sens avec toujours l'intégration de 2-3 joueurs de haut niveau parce qu'il faut des joueurs de haut niveau au moment avec de l'expérience et pas comme certains m'ont dit, tu vas faire une maison de retraite à l'Aviron. Voilà.
Ça, c'est un joli mot de la fin. On laisse la maison de retraite à ceux qui ont tenu ces propos. Philippe, un grand, grand merci pour votre disponibilité. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de Raph. Raph, c'est toujours toi qui as le mot de la fin. Tu tenais à mettre en avant le travail qui était fait à Bayonne. Voilà, c'est fait. Qu'est-ce que ton sentiment pour conclure finalement, Raph ?
Non, mais à l'image du club, ça avance en sous-marin. Quelques petits coups d'éclat, mais voilà, on sent que voilà. Je trouve que c'est aujourd'hui, et tu l'as dit, hein, Philippe, et je suis fan d'un club aussi qui est le Stade Français, qui est un petit peu à l'inverse en termes économiques justement. Et c'est vrai que si on pouvait justement pérenniser ce genre d'exemple justement d'aller chercher le vivier, les viviers locaux justement pour faire vivre le local. Ben voilà, ça amènerait peut-être un petit peu plus d'équité dans ce sport. Hein, et puis, voilà. Mais je le disais, il y a les mécènes d'un côté, les philanthropes d'un côté, et puis il y a ceux aussi qui, ben, comme toi, voilà, qui sont aussi sur le terrain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui vivent rugby, et ça fait plaisir aussi. Alors, il faut de tout pour faire un monde, comme on l'a dit, mais il faut aussi mettre en avant les actions qui sont menées par les petits clubs qui vont, au fur et à mesure, en devenir des très grands, et en tout cas, je vous le souhaite. C'était un plaisir, Philippe, et à la suite au prochain épisode. Ouais.
Merci beaucoup. Merci. Merci.
Allez, troisième partie de Poulain Rafut. Raph, on va évidemment débriefer cette interview avec Philippe Taïeb, le président de l'Aviron Bayonnais. Ce qui ressort quand même, c'est qu'effectivement, tous les clubs ne sont pas logés, Raph, à la même enseigne. Il y a beaucoup de présidents mécènes qui peuvent se permettre de perdre 1, 2, 3, peut-être même 10 millions d'euros par saison. Et puis, il y a ceux qui sont au centime près. C'est le cas de Philippe Taïeb, on le voit, qui travaille quasiment jour et nuit, pour reprendre son expression, pour rester jeune. Il faut vivre avec une jeune, hein. ça t'a fait marrer.
oui, il y a deux poids, deux mesures, Arnaud, dans le rugby professionnel, en top 14, on l'a vu, hein. Tu as ceux qui ont justement un peu la carte noire, tu vois, c'est plus la carte gold, quoi, tu vois, là, il y en a qui sont justement à regarder un petit peu comment se comporte l'écureuil de caisse d'épargne, quoi. Parfois il est anorexique, faut le renflouer avec des petites entreprises, des moyennes entreprises qui croient justement en ce club. Et notamment l'Aviron Bayonnais, on l'a vu, la construction aussi de La Rochelle qui s'est construit un petit peu sur le même modèle économique. Et puis, voilà, il y a comme le Stade Français, comme le Racing, comme Toulon, comme Montpellier, qui sont les grosses écuries aujourd'hui et qui ont des mécènes qui peuvent perdre 5, 10, 15, 20, voire même un peu plus aussi. Mais ce qui est bien, justement, c'est que, comme je disais, c'est le principe aussi de diversité. On ne va pas cracher dans la soupe à dire que ces mécènes aussi permettent de faire venir des stars du monde entier aussi, qui nous ont permis aussi de rêver les yeux ouverts en top 14 depuis 15 ans maintenant. Après, moi, je trouve que rêver aussi de manière un peu plus, avec un peu les pieds sur terre, c'est pas mal aussi. L'histoire de l'Aviron Bayonnais, on la connaît pas que pour la Peña maintenant, et ça fait du bien parce qu'elle a fait beaucoup d'allers-retours en Pro D2, elle a su se structurer, comme expliquait Philippe. Voilà, tu travailles avec ta formation, tu vas essayer de récupérer justement les joueurs qui ont fait briller d'autres clubs et les récupérer non pas pour en faire une maison de retraite, mais pour qu'ils soient aussi compétitifs. Et que ces joueurs aussi acceptent de se faire baisser le salaire à 10-15%, parce qu'on imagine bien qu'ils ne viennent pas pour des milliers de cents vu l'économie du club, ça fait du bien parce que ça permet de montrer aussi que le rugby ne vit pas toujours au-dessus de ses moyens.
Allez, Raph, le Racing 92 a fêté ce week-end son 140e anniversaire par une belle victoire. Hein, on en a parlé sur l'ASM Clermont-Auvergne. C'est un peu ton coup de cœur de la semaine, un coup de cœur en direction du premier club de rugby créé en France. Enfin, en tout cas, un des premiers à avoir rayonné, on va dire.
Oui, Arnaud, ben, tu connais mon amour pour le Stade français, mais de l'autre côté du périph', comme tu dis, il y a le Racing. J'y ai fait aussi une saison et c'est vrai que c'est l'un des clubs historiques, en tout cas ici en France. Mais rappelons-le quand même, le premier club, le rugby, est importé en France, pour citer un site internet qui a fait ses preuves. Le rugby est importé en France par les Anglais en 1872 et créé le premier club, le Havre, par deux jeunes Britanniques. Et deux clubs sont créés aussi à Paris, le Racing Club de France en 1882 et le Stade Français en 1883, puis viennent Bordeaux en 1885 et Toulouse en 1889. C'était pour le point historique. Pour revenir vraiment sur le Racing, belle victoire qui, comme le disait USS La Sorette ce week-end, voilà, c'est de rendre hommage à toutes celles et ceux qui sont passés par le Racing depuis 140 ans maintenant. Comme je dis, moi, j'ai passé qu'une saison et c'était les débuts de Jackie Lorenzetti. Le Stade français avait révolutionné le rugby moderne, on va dire, dans les années 2000. Jackie l'a révolutionné aussi à sa manière en faisant jouer le rugby à l'intérieur, dans une enceinte fermée. Donc, je pense qu'il faut lui rendre hommage. Et puis, ben, c'est le sujet un petit peu de notre émission, Arnaud, aujourd'hui, de rendre hommage au président. Voilà, donc je trouve qu'il y a un énorme travail de fait aussi au Racing. On le rappelle, hein, champion de France en 2016. Beaucoup de finales malheureusement loupées et on espère qu'ils le gagneront cette année en Coupe d'Europe. Mais je voulais rendre hommage au Racing qui est le club aujourd'hui professionnel le plus vieux en France. Et pour conclure, j'aimerais rendre hommage aussi, aussi aux bénévoles qui sont dans ces clubs. Didier, qui s'appelle Didier Genet-Nasca, qui était originaire de Vitry et qui s'est occupé pendant 20 ans en fait, des jeunes du Racing et qui est décédé. Il y a un hommage qui a été rendu justement à la U-Arena. Donc, on voulait lui rendre aussi hommage ici parce que ben, derrière chaque grand joueur aussi et chaque grand club, ben, il y a beaucoup de bénévoles, dont ce monsieur Didier, qu'on salue bien sûr.
Allez, Raph, pour conclure un peu d'humour potache, Gonzalo Quesada a raconté jeudi dernier en conférence de presse que ses joueurs avaient affiché des photos des joueurs de l'Arabie Saoudite dans la salle de vie du club, des drapeaux également de l'Arabie Saoudite. Et pour cause, hein, l'Argentine a été battue au Qatar lors du premier match de la Coupe du Monde, son premier match de la Coupe du Monde de football. Et visiblement, le technicien argentin s'est bien fait chambrer. Ça, c'est le rugby que tu aimes, non ?
Ouais, c'est le rugby que j'aime. Et puis, c'est aussi l'autodérision de Gonzalo. On l'a vu hein, ces dernières semaines, qui a été bousculé, on va dire, dans les médias. Et c'est vrai qu'ils reviennent avec cette petite touche humoristique malgré le résultat du week-end, on va dire. Voilà, c'est important de rire aussi parce qu'il y a quand même beaucoup plus sérieux que le sport. Donc, Puis, venant de Gonzalo, que je connais bien, l'humour argentin, l'autodérision. Voilà, faut pas trop non plus trop les piquer, à mon avis, quand même, parce que l'Argentine a gagné. Donc là, je pense qu'il y a moyen qu'il rechambre un petit peu toute son équipe aussi derrière en disant, bah, tiens, l'Argentine a gagné, ce serait bien que vous fassiez pareil. Ce serait pas mal aussi, tu vois, un petit pied de nez. Et voilà, donc une petite bise à Gonzalo, bien sûr, et aussi à tous les joueurs du Stade français. Merci de nous faire marrer un petit peu.
Bon, c'était bien un podcast rugby. On ne parlera pas foot toutes les semaines. C'était juste pour l'occasion. En tout cas, aujourd'hui, c'est terminé pour Poulain Rafut. On se retrouve la semaine prochaine. Toujours même endroit et avec la même banane. Salut Raph.
Ouais, merci Arnaud, merci à toutes et à tous. À la semaine prochaine, salut.